Lyon Demain, média agitateur d'idées.
50 ans et un virage stratégique pour Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. L'Observatoire de la qualité de l'air a dévoilé son plan pour 2026-2031. Le bilan global est positif, mais les chiffres stagnent depuis 3 ans. Pour inverser la tendance, l'organisme veut élargir ses recherches, notamment sur l'ozone, les pollens et les polluants éternels, les PFAS. L'objectif est double, adapter les villes au changement climatique et anticiper la nouvelle directive européenne de 2027 qui va durcir les seuils de pollution. Nous avons rencontré Marine Latam, c'est la directrice générale de l'Observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.
Il y a beaucoup de choses qui ont évolué en 50 ans. L'origine des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, c'était d'abord de suivre les émissions industrielles pour protéger les populations qui étaient à proximité dans une époque qui était les Trente Glorieuses, avec un développement industriel un peu à tout va, et donc une volonté quand même de l'État de s'assurer que les populations étaient un minimum protégées. Donc ça, c'est un peu le début de l'histoire des associations agréées. Petit à petit, l'État s'est organisé, a rendu obligatoire la surveillance d'un certain nombre de polluants, mais c'est une liste qui est quand même relativement limitée. Donc sur ces polluants réglementés, on voit une amélioration puisqu'il y a beaucoup de politiques publiques qui ont été mises en œuvre et que ces politiques publiques ont globalement payé. Et donc typiquement, les émissions de particules fines ou les émissions de dioxyde d'azote en 20 ans, elles ont été divisées par deux quasiment. Donc là, il y a des vraies améliorations. Pour autant, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a des sujets qui ne sont pas réglementés, des molécules qui sont soit nouvelles, soit qui ont toujours existé mais qu'on n'a jamais été vraiment regardées. Et ça, c'est le cas des PFAS, par exemple, mais ou d'autres molécules qui sont liées souvent à des procédés industriels, qu'on commence à regarder de plus près aujourd'hui et pour lesquels il n'y a pas de réglementation. Et donc là, c'est difficile de dire si ça a été une amélioration ou pas, mais dans la mesure où ce n'était pas visible, on pense qu'il y a eu beaucoup d'émissions qui n'étaient pas mesurées.
Alors les PFAS, c'est effectivement la nouveauté. On va les mesurer où, ces PFAS, dans l'eau, dans l'air?
Alors nous, on mesure les PFAS dans l'air, sachant que c'est un travail qui est encore un travail expérimental, on peut dire, même si ça fait 2 ans maintenant qu'Atmo le fait et est arrivé à stabiliser une méthode. La mesure des PFAS dans l'eau, c'est beaucoup plus clair parce que c'est normé. La mesure des PFAS dans l'air, pour le moment, la méthode n'est pas normée. Et l'autre chose qui n'est pas encore totalement clarifiée, c'est ce qu'on appelle la valeur toxicologique de référence, c'est-à-dire le niveau de concentration au-delà duquel il y a un effet sanitaire avéré. Ça demande des études épidémiologiques très lourdes et qui vont mettre encore quelques années à sortir. Mais pour autant, le fait qu'Atmo se soit saisi du sujet, ça a permis aussi à l'État et aux travaux au niveau national comme au niveau régional d'avancer plus vite, puisqu'on dispose maintenant de mesures qu'on appelle des mesures actives dans l'environnement, à la fois à proximité des installations industrielles, mais également dans un milieu urbain classique, on va dire. Et ces informations-là, ce sont les toutes premières mesures actives qui existent en France, en Europe, peut-être même dans le monde, et sur lesquelles l'État français va pouvoir s'appuyer pour avancer.
Il y a une volonté également de faire un parallèle entre le climat et la qualité de l'air aujourd'hui.
Oui. Oui, il y a beaucoup de liens entre le climat et la qualité de l'air. Ça peut être vu de différentes manières. La première manière de voir le sujet, c'est de se dire qu'en fait, les efforts, entre guillemets, qui sont faits pour éviter des émissions, notamment de gaz à effet de serre, pour éviter le réchauffement climatique, eh bien souvent, ça induit aussi une baisse des émissions de polluants atmosphériques, des polluants qui ont, eux, un impact sur la santé. Et finalement, on se dit que tous les travaux qui ont été engagés pour baisser les émissions, il faut les renforcer et peut-être remotiver à la fois les individus comme les organisations privées ou publiques sur ces actions-là, parce qu'en fait, elles ont un effet effectivement sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi un effet sur la qualité de l'air que vont respirer les familles, les habitants, vos voisins, demain à Lyon, par exemple. Et ça peut être une manière de remotiver les personnes sur un sujet qui est un sujet beaucoup plus local, beaucoup plus individuel et qui est peut-être plus parlant aujourd'hui pour remotiver, pour faire des efforts. La qualité d'air et le climat, dans une grande majorité de cas, sont servis par le même type d'action. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a plein d'interactions entre réchauffement climatique et qualité de l'air, qui fait que la qualité de l'air elle-même va être modifiée par le réchauffement climatique, notamment la pollution à l'ozone, qui est une pollution qui a lieu en présence de chaleur et d'UV. Donc typiquement, des épisodes de canicule sont très favorables à la production d'ozone. Donc on s'attend, avec le réchauffement des températures, à plus d'ozone. Mais le réchauffement climatique, il engendre aussi d'autres dispersions de polluants qui ne sont pas habituelles. Par exemple, des particules fines qui viennent de gros incendies, non seulement dans notre région, mais aussi des incendies comme ceux qui ont eu lieu au Canada maintenant il y a un an. un des pics de pollution de l'année 2025, c'est des particules qui ont été transportées depuis le Canada jusqu'en France, liées à un très gros incendie au Canada. Donc ça, c'est quelque chose qui est un phénomène nouveau. Et enfin, le dernier phénomène qui s'accentue avec le réchauffement climatique, c'est l'apparition de poussière désertique. Alors, on en a eu régulièrement, c'est pas totalement nouveau, mais la fréquence des épisodes de poussière désertique est accélérée par une modification de l'aérologie au niveau mondial et des mouvements de l'air à un niveau global qui engendre des transports plus lointains de ces particules sahariennes, et on les retrouve de manière de plus en plus fréquente chez nous. Et c'est un type de pollution, même s'il est naturel à la base, c'est un type de pollution.
Et dernière question, est-ce qu'on ne risque pas de démotiver les gens justement avec ces changements de normes, puisqu'on voilà 50 ans qu'on fait des efforts, puis on nous dit l'année prochaine finalement c'est tout remis à plat quoi.
Alors, c'est sûr que de revoir le niveau du thermomètre, c'est toujours un peu difficile à comprendre. Pour autant, il ne faut pas casser le thermomètre, et il faut bien comprendre que la mesure elle est importante, et si les normes elles baissent, c'est parce que les connaissances elles augmentent, et plus on en sait sur les risques sanitaires, donc c'est quand même 40 000 morts par an la qualité de l'air, plus on en sait de manière fine sur l'impact sanitaire, plus forcément on va réduire les normes jusqu'à la limite de ce qu'on sait. Donc c'est ça qui est en train de se passer avec cette directive européenne sur la qualité de l'air. Donc il y a un travail de pédagogie et d'accompagnement, bien entendu, qu'il va falloir faire Atmo avec ses partenaires en particulier, mais ça va quand même dans le bon sens, et ça n'enlève rien au fait, et ça il faut qu'on le dise, que dans le fond, sur les polluants réglementés, on est quand même sur une courbe descendante qui est plutôt positive.
Le point noir reste le budget, financé en partie par la taxe sur les activités polluantes. Atmo voit ses recettes reculer de 9% cette année, précisément parce que l'air s'est amélioré. Un paradoxe qui pousse Éric Fournier, le président d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, à réclamer un nouveau modèle de financement pour continuer de protéger la santé des habitants.
Alors le financement d'Atmo, en gros, il est financé, il est établi sur trois tiers. Un tiers qui vient des collectivités, un tiers qui vient de l'État et un tiers qui vient d'une taxe sur les activités polluantes. Deux de ces tiers nous posent question actuellement. C'est d'une part la taxe générale sur les activités polluantes qui baisse. Alors on peut y voir un point positif. C'est qu'on pollue moins. Donc on pollue moins, c'est normal, du coup on paye moins. Ça c'est très vertueux et on s'en réjouit, c'est l'essence même du travail qui doit être porté. Par contre, il y a un deuxième facteur qui lui est négatif, c'est que l'assiette de contribution tend à baisser, ce qui malheureusement est un indicateur de la désindustrialisation et du départ d'un certain nombre d'entreprises du territoire national. Ça c'est valable sur tout le territoire national malheureusement, et ça montre aussi un impact indirect à la désindustrialisation, c'est que du coup, on a plus de mal à financer nos dispositifs de services publics et nos dispositifs d'intérêt général, comme celui de la surveillance de la qualité de l'air. Et puis la deuxième chose qui nous préoccupe actuellement, c'est que dans un contexte de forte tension et de forte pression sur les communes, sur les intercommunalités, qui sont nos adhérentes, je rappelle qu'on a 271 partenaires Atmo, c'est très collégial, c'est très collectif, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, des grandes métropoles, mais aussi de petites collectivités qui adhèrent, eh bien ces collectivités qui ont plus de mal à boucler leur budget nous disent attention, on risque de ne pas pouvoir continuer. Et là aussi, c'est à peu près un tiers de notre financement. Il suffirait que quelques pourcents partent pour mettre en péril une structure qui est une structure d'ingénierie. C'est principalement de la ressource humaine c'est des scientifiques, c'est des ingénieurs, c'est des techniciens, c'est des gens qui sont sur le terrain, c'est pas des gens qui font de la politique. On est neutre totalement. On est là pour connaître, informer et aider à la prise de décision. Donc oui, il y a une inquiétude et on essaye de remonter au niveau de nos parlementaires, au niveau de l'ensemble de nos partenaires, des pistes de réflexion, dont l'une est celle de la diversification des recherches de financement à travers à la fois des éléments qui sont liés à un fonds de dotation qui peut possiblement amener des choses, ou alors avec des conventions particulières qui peuvent être passées selon les projets, avec soit des collectivités sous un angle territorial, c'est-à-dire qu'est-ce que moi sur mon territoire très précisément je dois faire pour améliorer la qualité de l'air, qu'est-ce que j'ai à y gagner. Qu'est-ce que j'ai à y gagner en termes de santé, en termes de transport, en termes de résidentiel et de qualité, ou bien avec des partenaires également, d'autres partenaires publics. Par exemple, on citait les hôpitaux de Lyon, avec qui des partenariats sont créés, tout l'angle santé devant être mis en avant. Donc on cherche évidemment à diversifier nos sources de financement, mais il faudra aussi une réflexion plus globale dans le cadre d'Atmo France, cette fois-ci, qui est un organisme qui organise la réflexion sur ce sujet pour trouver un autre modèle économique.
Atmo Atmo, c'est bien sûr un site internet, atmo-auvergne-rhône-alpes.fr, mais l'Observatoire veut véritablement s'ancrer dans le quotidien. Depuis 2024, la tour InCity s'éclaire ainsi chaque soir à la couleur de l'indice Atmo de la qualité de l'air du lendemain à Lyon. Mais pour rendre encore plus visible au grand public la qualité de l'air de la métropole, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes illumine aussi une de ses stations de mesure située le long du périphérique à Villeurbanne, peu avant la porte de Cusset, une station qui s'illumine désormais la nuit aux couleurs de la qualité de l'air.